Chapitre 12. Mademoiselle Herminie, depuis que Gwen était retournée avec son mari à Pavala, avait entretenu avec sa jeune parente une correspondance assez irrégulière, mais fort cordiale. Se méfiant de la curiosité de Blanche et de ses filles, Gwen envoyait ses lettres à l'adresse d'un agent dévoué à Dougal, qui habitait Rome, et celui-ci les réexpédiait à Mademoiselle Dourzen sous une enveloppe avec adresse de sa main. La vieille demoiselle, de son côté, pour éviter toute indiscrétion de la poste, envoyait également sa correspondance par l'intermédiaire du même agent. Elle avait ainsi appris l'emprisonnement d'Ivor, puis, plus tard, le voyage de Dougal et de sa femme en Europe et leur installation à Ouchy. Mais elle ignorait l'évasion d'Ivor, Dougal avait caché à Gwen. Souvent, elle parlait avec Macha de sa jeune parente et se félicitait d'être, en quelque sorte, l'auteur de son bonheur. Car si je n'avais insisté, elle ne se serait pas décidée à tenter la belle aventure, et aujourd'hui, elle se trouverait encore sous la domination de cette stupide Blanche, au lieu d'être l'épouse très heureuse d'un prince des mille et une nuits. Puis, la malice ne l'abandonnant jamais, elle ajoutait en riant « Je voudrais voir la tête de Blanche si elle savait cela. » Un matin, il y avait 3 semaines que Gwen était à Ticarec, Macha, en revenant de faire quelques achats au village, dit à sa maîtresse « Il paraît que la vieille maison de la Lande est louée, mademoiselle. » La maison de Gwen, les Dourzen auraient-ils donc fini par trouver un locataire? Gwen ne serait pas contente d'apprendre cela. Louée à qui, le savez-vous? L'épicière qui m'a raconté cela ignore ce que sont ces gens-là. Les provisions sont faites par un jeune Chinois dont on ne peut tirer un mot en dehors de ce qui a trait à ses commissions. Des gens, en passant par la lande, ont aperçu une femme d'un certain âge, au teint très brun. Il faudra que je tâche de savoir quelque chose à ce sujet pour en informer Gwen, dit Mademoiselle Herminie. Pour cela, il lui fallait s'adresser à ses cousins Dourzen, avec l'habileté nécessaire pour qu'ils ne soupçonnassent point qu'elle s'y intéressait autrement que par curiosité. Car ils n'avaient jamais soupçonné les rapports entre la vieille demoiselle et l'orpheline, tellement toutes deux y avaient apporté l'adresse. Mais, étant donné l'antipathie réciproque entre Blanche et Mademoiselle Herminie, celle-ci jugeait préférable de s'adresser à Hervé, plus facile d'ailleurs à faire parler. Elle n'en trouva l'occasion que 3 jours plus tard, tandis qu'il se promenait en fumant dans le jardin. Après quelques paroles préliminaires, elle aborda le sujet. « Qu'est-ce que me raconte Macha? Vous avez trouvé à louer Ticarec ?» À sa grande surprise, elle vit changer la physionomie béate de M. Dourzen. L'embarras, la gêne, y apparurent, tandis qu'il répondait d'une voix hésitante « Louer non, oui, c'est-à-dire... « Eh bien quoi? Elle n'est pas louée ?»« Je ne crois pas. »« Comment tu ne crois pas? Tu dois pourtant bien le savoir. »« Non, je... » C'est Blanche qui s'est occupée de cela, j'ignore qui sont ces gens. » Mademoiselle Herminie était trop fine pour ne pas s'apercevoir que son cousin mentait. Et cela éveilla prodigieusement sa curiosité. « Quoi, tu laisses loger dans une maison appartenant à ta pupille des gens dont tu ne sais rien? C'est un peu fort, Hervé. » Blanche sait, elle, mais je ne m'occupe pas de cela. » Et, visiblement désireux de changer de conversation, il demanda « Avez-vous vu mon nouveau rosier, cousine ?» Mais Mademoiselle Herminie ne lâchait pas le morceau. Après un coup d'œil sur le rosier, elle interrogea de nouveau « Enfin, tu sais tout de même bien le nom de ces personnes-là »« Quelles personnes ?»« Mais celles qui habitent Ticarec. On ne loue pas ainsi un logis qui ne vous appartient pas sans prendre quelques précautions. » « Il n'est pas loué. Ce sont des amis de Blanche. »« Ah bon? Mais ça ne plairait peut-être guère à ta pupille, je le répète. Ta femme en prend un peu trop à son aise, mon ami. »« C'est-à-dire, la petite s'est mal conduite envers nous. »« Sais-tu si elle est coupable? On peut la voir enlevée bien malgré elle. »« Il paraît que non. » Hervé s'arrêta court en s'apercevant qu'il allait en dire trop long. Mais Mademoiselle Herminie dressait de plus belle l'oreille. Prenant un ton négligent, elle demanda « Auriez-vous appris quelque chose sur cette mystérieuse disparition ?»« Mais non, pas du tout, » dit Hervé avec précipitation. « Nous ne savons rien, absolument rien. »« Ah, c'est regrettable, car il aurait été bon qu'on sût à quoi s'en tenir sur cette affaire et qu'on connût le sort de cette jeune fille. » « Certainement, mais on ne sait rien, rien du tout !» Laurette, à ce moment, appela son père et Hervé prit congé de la trop curieuse demoiselle avec un empressement qui n'échappa point à celle-ci. « Toi, mon cher, pensa-t-elle, tu as été chapitré par ta femme pour raconter des bourdes. Ça se voit à l'œil nu. Évidemment, ils ont appris quelque chose sur l'enlèvement de Gwen, mais quoi au juste ?» Quant à Ticarec, c'est une histoire à dormir debout qu'il me raconte là. Il me prend pour une imbécile comme lui, ma parole. Qu'est-ce que Blanche a pu manigancer là? Qui loge-t-elle dans cette maison et pourquoi en fait-elle un mystère? Vraiment, c'est un peu louche et il serait bon que je tire cette affaire au clair. En conséquence, le lendemain, la vieille demoiselle s'en alla en promenade vers la lande. Avec des allures flâneuses, elle arriva près de Ticarec. Dans la cour, le boy fourmissait des casseroles. Mademoiselle Herminie s'avança délibérément et demanda « Qui habite donc ici ?»«
Je ne sais pas, madame. »«
Comment, tu ne sais pas ?»
Le boy secoua négativement la tête.
« Allons donc, ne me raconte pas de sottises. Tu le sais parfaitement, j'en suis sûre. »
« Non, je ne sais pas, » répondit imperturbablement le Chinois.
À ce moment, attirée par le bruit des voix, parut au seuil de la porte la métisse. Elle demanda poliment « Que désirez-vous, madame ?»«
Je demandais à ce garçon qui habitait ici. Or, il me répond qu'il n'en sait rien. »«
Il a raison. »«
Comment, il a raison ?»«
Parce que cela ne peut pas vous intéresser, madame. »
Et, se tournant vers le boy, Mevada ordonna
« Viens, langue !» Ils rentrèrent tous les deux et la porte se referma sur eux.
« Ah bien, par exemple !» dit Mademoiselle Herminie. Elle était stupéfaite et furieuse, mais sa curiosité n'en était que plus excitée. Cependant, elle ne voyait pas le moyen de la contenter ici. Très vexée, elle s'en alla, ruminant dans son cerveau inventif des moyens d'arriver à ce qu'elle voulait. Mais quoi, si ces gens-là tenaient à s'entourer de mystères, comment les obliger à se faire connaître ?
Qu'y a-t-il donc là-dessous, pensait-elle ? Qu'est-ce que cela cache ? Inutile de questionner Blanche, elle ne me répondra que des mensonges. Ses filles de même. Au village, on ne doit rien savoir. Cela m'a l'air d'une histoire diablement difficile à débrouiller. Comme Mademoiselle Herminie allait quitter la lande pour prendre un chemin creux, elle vit venir devant elle un jeune homme d'élégante allure que suivait un chien jaune fort laid. Quand il la croisa, elle remarqua dans le visage au teint brun pâle les yeux d'un bleu dur qui se posèrent sur elle au passage. Elle songea « Où donc ai-je vu cette figure-là » Et presque aussitôt, elle se souvint. Un jour de l'année précédente, en revenant d'une promenade avec Macha, Dougal de Penanscoët était passé près d'elle, à cheval, accompagné de ce même jeune homme. « Ce doit être ce Willy dont m'a parlé Gwen, » se dit la vieille demoiselle. « Willy, le fils de Varvara et d'Ivor. Comment se trouve-t-il ici ? D'après ce que m'a écrit Gwen, il avait disparu au moment où fut démasqué son misérable père. Que vient-il faire dans ce pays ? Je ne pense pas qu'il habite à Kermazinck. » Elle s'était arrêtée au milieu du chemin pour réfléchir. Puis, tout à coup, mue par une soudaine impulsion, elle se détourna et se mit à suivre de loin le jeune homme. Elle le vit se diriger à travers la lande vers Ticarec, puis disparaître dans la maison dont il ouvrit la porte en habitué.
« Ça, c'est trop fort !» dit-elle tout haut.
Oui, vraiment, il y avait en tout cela un réel imbroglio. Que venait faire là ce Willy ? Fallait-il penser qu'il y habitait, que c'était lui qui louait ce logis aux Dourzen ? Mais alors, pourquoi en faire un mystère ? Elle se remit en marche, tout absorbée en ses pensées. De temps à autre, elle secouait la tête. Vraiment, de plus en plus, elle trouvait quelque chose de louche en cette affaire. Si ce n'était qu'Ivor de Penanscoët et prisonnier là-bas, à Pavala, songeait-elle, je me demanderais s'il n'y a pas là quelque manigance de lui
avec l'aide de cette oie vaniteuse qu'ils appellent Blanche d'Ourzène. Et encore, même ainsi, la chose serait incompréhensible, car je ne vois pas du tout à quoi pourrait bien servir cette maison. » Dans sa préoccupation, la vieille demoiselle se cogna presque à Blanche, qui sortait de Coabé, en compagnie de Rose et du fiancé de celle-ci, Émile de Chevignon, un grand blond efflanqué dont la mine d'apparence bonasse était à certains moments démentie par le sourire rusé des lèvres minces. « Bonjour, ma cousine, vous revenez de promenade ?» demanda Madame d'Ourzène avec aménité, car elle escomptait un assez beau cadeau pour Rose, Mademoiselle Herminie passant pour être généreuse dans les grandes circonstances. « Oui, et je viens de faire une rencontre singulière. »« Ah, laquelle donc ?»« Eh bien, ce jeune homme qui accompagnait Dougal de Penanscoen dans ses promenades et qui avait un type assez singulier. Son nom est Willy, je crois. » Mademoiselle Herminie regardait Madame d'Ourzène attentivement. Elle la vit rougir sous la poudre, elle constata que son regard fuyait le sien, tandis qu'elle répondait « Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous devez pourtant le savoir, car je l'ai vu entrer à Ticarec. » « À Ticarec ? Oh, ce doit être l'étranger à qui nous avons loué la maison. Un monsieur... Monsieur, je ne me souviens plus. Ces noms étrangers sont si difficiles à retenir. » Vous l'avez loué sans l'assentiment d'Hervé ? Naturellement, non, je n'en avais pas le droit. Alors, pourquoi m'a-t-il dit qu'il ne savait pas si elle était louée ? Il vous a dit cela ? Blanche rougissait plus fort. Quel imbécile ! Lui-même a débattu le prix avec ce monsieur. Donc vous ne vous rappelez pas le nom. Vous êtes étonnamment sujet à l'amnésie dans la famille. Pourtant, il paraît que ses locataires sont vos amis. Qui vous a dit cela ? Mais Hervé, parce que je m'étonnais qu'il ait logé dans cette maison des gens dont il ne savait rien, même pas le nom, lui non plus. Cette fois, Blanche perdit son sang-froid. Excédée par l'insistance et l'ironie peu voilée de la vieille demoiselle, elle dit avec irritation « Je ne vois pas trop ce que tout cela peut vous faire, ma cousine. Pour notre part, nous n'avons vu aucun inconvénient à mettre dans cette demeure inutilisée des personnes honorables dont nous n'avons jusqu'ici qu'à nous louer. » « très bien, cela vous regarde en effet, ma bonne. Mais si, avec tous vos mystères, vous avez plus tard des ennuis, ne venez pas nous en plaindre à moi. » Et lui tournant le dos, Mademoiselle Herminie entra dans la maison. « Vieille toquée !» dit Madame d'Ourzène entre ses dents. « Qu'est-ce qu'elle demandait ? Je n'ai pas compris. » Blanche sourit aimablement à son futur gendre qui lui adressait cette question. « C'est une toquée. Il faut toujours qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Il s'agit d'une vieille maison appartenant à une pupille de mon mari et que nous avons cru bon de louer. » Rose leva les épaules en ajoutant dédaigneusement « Il faut toujours qu'elle critique tout et tout, cette cousine Herminie. Quel caractère !» Mademoiselle Herminie, pendant ce temps, regagnait son logis et elle s'empressa aussitôt de conter à Macha les singulières choses qu'elle avait vues et entendues. Mais elle ne se doutait pas que, de sa fenêtre, Gwen l'avait aperçue tandis qu'elle s'en retournait à travers la lande après son bref colloque avec Mevada. Instinctivement, la jeune femme avait tendu les bras vers elle, prête à jeter un cri d'appel. Et ce cri était demeuré dans sa gorge. Car en une horrible vision, elle avait vu son enfant, son bien-aimé Armael, aux mains d'Ivor, Armael sans vie, petite victime, sacrifiée à l'odieuse vengeance de ce monstre. Et toute frissonnante, le cœur serré, elle avait regardé s'éloigner la silhouette familière, elle l'avait vu disparaître dans un repli de terrain. Alors, elle s'était écartée de la fenêtre et, affaissée dans un fauteuil, elle avait sangloté tout bas pour que ses geôliers, ses ennemis, ne l'entendissent pas et ne pussent s'en réjouir.